Et maintenant, Marion va vous parler des informations internationales.
Au sommaire de l'international, Romain et Alexandre vont présenter les élections en Iran.
La plupart du peuple iranien ne sait plus quoi faire après cette réélection du président sortant, Mahmoud Ahmadinejad. Selon son ennemi présidentiel Mousavi, ces élections ont été fraudées. Le résultat de ces élections est très haut, 62,63% pour Ahmadinejad et 33,75% pour Mousavi. Le président a réuni le peuple de Téhéran, qui déployait toutes les banderoles iraniennes pendant que Mousavi contestait au Conseil des gardiens pour faire part de la fraude des élections. Ahmadinejad a déclaré « Les élections en Iran sont les plus propres du monde ». Il a assuré aussi que les élections n'étaient pas faussées. Le fils du chef de l'ancien gouvernement, le Tchad, appelle à la désobéissance civile. Il soutient la thèse d'une fraude. Revenons sur l'histoire du pays en 1960.
Oui, le régime actuel est le même depuis 1960, date de la révolution qui fit beaucoup de morts. Les islamiques, ultras conservateurs, avaient mis en place une dictature religieuse très stricte. Il n'y a en Iran aucune liberté de culte, d'expression et de réunion. Les Iraniens ne peuvent par exemple qu'écouter de la musique religieuse. Les femmes qui ne portent pas le voile et les hommes la barbe sont arrêtés. Les opposants sont le plus souvent des jeunes étudiants, comme pendant la révolution.
Le président américain est prêt, a-t-il dit, à s'entretenir avec le président iranien. Suzanne Maloney et les experts sont persuadés que cette élection est fraudée. Les États-Unis doutent sur la légitimité des élections. Cette élection affaiblit un peu plus la fragilité de la paix entre Washington et Téhéran.
Maintenant, Xavier vous présente les conflits israélo-palestiniens.
Barack Obama, nouveau président des États-Unis, voudrait pacifier la région du Moyen-Orient, opposant les Palestiniens aux Israéliens. En réponse aux propositions d'Obama, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé hier un discours. Nous pouvons le résumer avec cette formule mathématique. Deux oui, trois non et une condition. Oui à un État palestinien et à des négociations, mais non à l'arrêt de la colonisation, au retour des réfugiés et à un État palestinien doté d'une armée. Enfin, pas d'État palestinien sans la reconnaissance du caractère juif d'Israël. Aujourd'hui, les négociations sont encore en cours et l'avenir du territoire palestinien est incertain.
Gaël et Jem Kamba nous présentent les enfants perdus du Sénégal.
Un grand nombre de jeunes enfants venant de Dakar ou de Guinée-Bissau se font exploiter tous les jours. Certains sont partis de chez eux volontairement. Les autres ont été chassés par leurs propres parents. Et ceux qui restent se retrouvent seuls dans la rue.
Tous les matins, les jeunes talibés âgés de 6 à 15 ans, voire plus, assistent à la lecture du Coran dirigée par le chef Cheikh Ibrahim. Il exige que les enfants jeunes l'appellent Cheikh et qu'ils s'inclinent devant lui. Les enfants sénégalais commencent la lecture à 6 heures. Leurs yeux sont encore imbués de sommeil.
S'il y a une seule faute de prononciation ou une seule hésitation sur un mot, les enfants se font frapper à coups de badine. C'est un bout de bois orné d'une lanière que tient leur chef à la main. Les jeunes sénégalais n'ont pas d'éducation, pas de scolarité officielle. À 7 heures, la lecture du Coran s'arrête. Les jeunes talibés vont mendier en ville. Ils courent de voiture en voiture pour essayer d'avoir quelques billets. Ils vont aussi fouiller dans les poubelles pour essayer de récupérer des restes de nourriture.
Ils doivent ramener au moins 350 francs CFA, ce qui correspond à 50 centimes d'euros. Mais le vendredi, jour de prière, ils doivent en ramener 525. Sinon, ils se font battre par leur chef qui abuse d'eux. Certains enfants en ont assez, alors ils s'enfuient et essaient de retrouver leurs parents. Le Cheikh Amido, qui a vécu son enfance dans les mêmes conditions, a créé une association pour les aider à retrouver leurs parents.
Pour continuer, Anaïs nous parle de la grippe A.
À Toulouse, un collège est sécurisé par des gendarmes car quelques élèves de 6e sont touchés par la grippe A. Ils sont tout de suite traités car les conséquences peuvent être graves. Ils sont obligés de porter des masques car elle est transmissible par la salive et elle est virale. Les symptômes de la grippe A sont de fortes fièvres, toux, fatigue, maux de tête. Pour protéger les autres élèves du collège, l'inspecteur d'académie de Toulouse décide de fermer le collège par prudence. Les parents d'élèves sont rassurés car les autorités ont réagi vite. Mais malgré tout, certains parents ont soupçonné une mère d'être la cause de tout cela, car celle-ci étant hôtesse de l'air, aurait pu ramener la grippe A du Mexique, mais elle a affirmé qu'elle n'était pas au Mexique ce jour-là. Selon l'Institut de veille sanitaire en France, 80 personnes ont été atteintes par le virus. Certaines personnes disent que le virus circule mondialement. Actuellement, 75 pays sont touchés. Il faut craindre l'hiver prochain, affirme le journaliste Fabrice Cara, et il faut espérer que le virus se répande le plus tard possible, reprend-il. Le ministère de la Santé, Roselyne Bachelot, a déclaré qu'il y avait 80 cas confirmés de grippe A en France, dont 68 importés par des voyageurs et 12 personnes revenues à l'étranger.
Après ces événements tragiques, Kevin va nous parler du 15 de France.
Samedi, le 15 de France a réalisé l'exploit en s'imposant
en pays austral. Avec 3 essais de Trinduc, Servat et Médard, et un quasi sans faute de Julien Dupuis. Les Bleus ont ainsi battu les All Blacks 27 à 22. Il est à rappeler la précédente victoire du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Est-ce un exploit ou la simple concrétisation d'une domination française? La réponse samedi prochain.
Et pour finir dans le sport, Julien et Quentin présentent les 24 heures du Mans.
Bonjour, nous allons vous parler des 24 heures du Mans automobile. Cette année, il y a eu 55 participants et 22 abandons. La meilleure équipe a parcouru 382 tours avec une moyenne de 250 km/h au tour. L'écurie qui a gagné est celle de Peugeot avec sa 908 numéro 9.
9 personnes ont participé à sa réussite. 5 mécaniciens, 3 ingénieurs et 1 chef de pilote. Pour la petite histoire, Patrick Dempsey est arrivé 30e pour sa première participation. Les 3 personnes qui ont fait gagner Peugeot sont Wurg, Brabham et Genet.
La revue de presse s'achève, bonne journée.